おかしい、おかしい。
Bonsoir, bienvenue dans cette tribune de la presse qui vous présente ce soir trois thèmes à savoir. Expulsion des Congolais de l'Angola, Margot Wolfram, secrétaire générale adjointe des Nations Unies en charge des luttes contre les violences faites aux femmes, qualifie de dramatique la situation des femmes congolaises victimes de violences sexuelles lors de ces opérations d'expulsion. Ensuite, certains acteurs politiques de la province de l'Équateur contestent le contrat signé entre la Société des droits congolais équatorial Energy and Water et la firme finlandaise Trinitas Financing sur la construction de cette centrale électrique dans cette province. En contrepartie, cette firme finlandaise va exploiter les richesses de la province pendant 75 ans. Et enfin, retombée de la suspension de l'exploitation minière artisanale au nord et au sud de Kivu, un avion à la recherche de minerais écloué au sol depuis la semaine dernière à l'aéroport international de Goma. Participe à ce débat trois confrères journalistes. Il s'agit d'Ambroise Mamba, il est journaliste à Congo Web Télévision, c'est une télévision qui émet depuis Kinshasa. Bonsoir Ambroise Mamba.
Bonsoir Guy.
Joël Kadine Danga, il est rédacteur en chef du journal Impact News, c'est un journal qui paraît ici à Kinshasa. Joël Kadine, bonsoir.
Bonsoir Mathieu.
Jean Dombati, il est journaliste à la radio communautaire de Mwanda, une radio qui émet depuis la cité de Mwanda dans la province du Bas-Congo. Bonsoir Jean Dombati.
Oui, bonsoir.
Nous allons écouter cette revue de presse que Samuel Kachak nous présente pour savoir comment la presse a traité les différents thèmes que nous avons sélectionnés pour le débat de ce soir.
Bonsoir. Les journaux parus cette semaine à Kinshasa sont revenus sur les retombées de la suspension de l'exploitation minière artisanale en RDC. Le potentiel titre, pillage des ressources et alimentation de la guerre dans l'est de la RDC, un avion immatriculé aux USA bloqué à Goma. Selon ce journal, au cœur de cette sabreuse affaire de trafic illicite des matières premières, se trouve un officier supérieur des FRDC en la personne du général Bosco Ntaganda, recherché par la Cour pénale internationale. En croit le potentiel, dans les soutes de l'agent se trouvait la bagatelle somme de 6 800 000 dollars américains en espèces sonnantes et trébuchantes destinées à l'achat de l'or. Pour qui revient sur ce sujet titre, de l'or et 6 millions de dollars américains saisis à Goma. Ce journal rapporte qu'environ 400 kg d'or pur et un pactole ont été saisis à bord d'un jet en provenance du Nigeria. Soupçonné d'être impliqué dans une opération du type mafieux, cet avion avait à son bord 4 personnes présentées comme des hommes d'affaires. La référence plus qualifie ce trafic illicite et minéré démasqué à Goma d'une grande mafia minière orchestrée par Bosco Ntaganda. Pour réussir son coup, ce journal affirme que cet officier du CNDP a défié toutes les autorités politico-administratives, les FRDC et tous les services de sécurité basés dans la ville volcanique.
Merci Samuel Kachak pour cette revue de presse. Un petit commentaire par rapport à la revue de presse que nous venons d'écouter. Ambroise Mamba, je rappelle que vous êtes journaliste à Congo Web Télévision, c'est une télévision qui émet depuis Kinshasa. Comment vous commentez le travail qui a été abattu par la presse kinoise de cette semaine?
Je pense que c'est une bonne revue, étant donné que nos confrères dans la presse écrite ont été quand même très critiques en rapport avec les trois thèmes, et surtout en ce qui concerne les deux thèmes, les contrats à l'Équateur, mais également les retombées de l'interdiction de l'exploitation minière artisanale dans l'est du pays.
Joël Kadé, vous êtes rédacteur en chef du journal Impact News, c'est un journal qui paraît à Kinshasa. Vous, comment vous commentez l'actualité de cette semaine?
En tout cas, la presse a fait très bien son travail, bien que dans des conditions très pénibles, mais il parvient toujours à nourrir nos populations de l'information, étant donné que celle-ci est aussi un droit fondamental, au même titre que manger et boire.
Jean Dombassi, vous êtes journaliste à la radio communautaire de Mwanda, c'est une radio qui émet depuis la cité de Mwanda à la province du Bas-Congo. Quelle est l'actualité à la une dans la province du Bas-Congo cette semaine?
Oui, l'actualité chez nous, c'est ce refoulement massif des Congolais de l'autre côté de l'enclave angolaise de Cabinda et puis du côté aussi de Soyo. Soyo, c'est de l'autre côté de l'embouchure du fleuve Congo. C'est chaque jour où les Congolais sont sans papiers, sont refoulés dans des conditions infrahumaines.
Merci, nous abordons notre premier thème de ce soir. Expulsion des Congolais de l'Angola. Margot Wolfram, secrétaire générale adjointe des Nations Unies en charge des luttes contre les violences faites aux femmes, qualifie de dramatique la situation des femmes congolaises victimes des violences sexuelles lors de ces opérations d'expulsion. Margot Wolfram, l'adjointe du secrétaire général des Nations Unies en charge des luttes contre les violences faites aux femmes, a clôturé dimanche dernier sa visite en République démocratique du Congo. Et c'est par la localité de Kamako, porte d'un des réfoulés congolais d'Angola au Kasaï occidental qu'elle a fini son périple. Sur place, Margot Wolfram a déclaré dramatique la situation des femmes congolaises victimes de violences sexuelles lors des opérations d'expulsion des Congolais en Angola. Elle envisage d'impliquer les autorités angolaises pour arrêter cet acte qui touche à la dignité de la femme. Les détails avec Sadala Chabani.
Environ 200 femmes violées sont à enregistrer ce jour à Kamako, localité congolaise située à la frontière avec l'Angola. Dans l'entretien qu'elles ont eu avec Marco Wallström, ces femmes ont témoigné avoir été violées par des policiers et militaires angolais lors des opérations de refoulement. Elles ont confirmé également la mort de certains d'entre elles fusillées. Des victimes de violences sexuelles portant des traces de torture se sont présentées devant la jointe du secrétaire général des Nations Unies en charge de lutte contre les violences sexuelles. Sur place, Margot a trouvé plus de 90 enfants qui ne savaient pas où se trouvent leurs parents. Margot Wallström n'a pas caché son indignation. Elle a exprimé sa détermination de poursuivre une lutte contre les violeurs.
C'est très grave ce qui se passe dans cette région et je pense que c'est très sérieux. Les femmes victimes de la violence sexuelle. Et il faut naturellement poursuivre ça. Il faut parler avec le gouvernement angolais. Il faut aussi arrêter. Je vais voyager en Angola pour rencontrer le gouvernement et j'espère le président lui-même.
Dans l'entretien, les victimes de violences sexuelles entendent toujours la réponse à leurs demandes prioritaires. C'est la prise en charge médicale. De Kananga, Sadala Chabani, Radio Cap.
Ambroise Mamba, les Congolais qui sont refoulés d'Angola, on en parle depuis plusieurs mois, mais la situation ne s'améliore toujours pas. Et comment vous analysez la réaction de Madame Margot Wolfram?
Oui, mais c'est une bonne réaction lorsqu'elle trouve, par exemple, que les conditions dans lesquelles ces Congolais ont été expulsés sont inhumaines. Et puis, il y a eu des violations massives des droits de l'homme. C'est une réaction quand même qui a sa place. Moi, ici, je voudrais peut-être dire que mais comment le gouvernement congolais réagit par rapport à ces sujets congolais qui ont été expulsés de l'Angola. Parce que les expulsions n'est pas la première vague. Ici, je voudrais que le gouvernement puisse quand même réagir vis-à-vis de son voisin, l'Angola, il faut quand même tirer les choses au clair. Parce que là, on parle des expulsions, peut-être que les Congolais ont été dans une situation irrégulière, mais lorsqu'il y a même des violations, il y a des violences sexuelles à l'endroit, on parle des 200 femmes qui les suivent, mais ça ne vaut pas la peine. Et ici, je voudrais que non seulement Wallström va aller en Angola pour peut-être parler avec le gouvernement angolais, mais qu'on associe également les autorités congolaises sur ce point-là, pour qu'effectivement ces Congolais soient rétablis dans leurs droits. Mais la prise en charge notamment, ici, les gouvernements congolais doivent également intervenir pour ne pas quand même abandonner ces compatriotes qui souffrent à la frontière entre l'Angola et la RDC.
Oui, Joël Kadé-Ndanga, pourquoi, à votre avis, ces problèmes restent juste aujourd'hui sans solution, hein, quand on sait que les deux pays sont des pays frères?
Climaté, des fois je suis très très choqué que les problèmes des Congolais soient pris en charge ou choquent beaucoup plus les autorités des organismes internationaux que nous-mêmes. C'est comme si à un certain moment, au niveau de nos responsables, il semblerait qu'il n'y a plus de gens qui sont sans cœur. Parce que la situation des expulsions de nos compatriotes de l'Angola, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. C'était bien longtemps que cela a commencé. Mais qu'est-ce que vous entendez? Parce que mon confrère venait de dire que le gouvernement doit réagir. Toutes les fois que le gouvernement réagit par son porte-parole, on utilise de l'euphémisme. On est en train de minimiser l'affaire. C'est comme s'il n'y a rien. Lorsque vous comparez cela par rapport à deux Français qui ont été pris en otage au Niger, mais vous voyez, tout le gouvernement est mobilisé, le chef de l'État est mobilisé, juste pour deux personnes. Mais des Congolais meurent, des Congolaises sont violées, des Congolaises sont fusillées. Mais c'est comme si cela passe inaperçu. Au niveau du Parlement, pas aucun son. Au niveau du gouvernement,
En tout cas, vous ne sentez rien.
Et ce sélitisme peut être expliqué par quoi?
C'est là où je dis qu'à un moment donné, nos autorités semblent préoccupées par autre chose. Parce que les rôles du pouvoir public ou la fonction, l'objectif du pouvoir, c'est accorder le bonheur à son peuple. C'est là où vous entendez que deux jumeaux, j'étais en train de suivre ça sur Euronews, deux jumeaux ont été portés disparus par leur propre père, mais les gouvernements qui sont mobilisés, la police des deux pays sont mobilisés à la recherche de ces deux jumeaux. Mais ici, les Congolais meurent. Au niveau, par exemple, du gouvernement provincial du Kassai occidental ou le gouvernement provincial du Bas-Congo, en tout cas sur le mutisme. Le président de l'Assemblée provinciale du Kassai occidental est préoccupé par son fauteuil. Le gouverneur est préoccupé par son fauteuil. Ils sont préoccupés par leurs propres affaires, mais les Congolais sont fusillés, sont violés, mais personne ne vous dit quelque chose. C'est à ce niveau, mon frère, qu'il y a lieu que le gouvernement prenne ces choses en main. Il ne faudrait pas qu'on soit toujours en train de minimiser les choses, d'utiliser le féminisme pour, en tout cas, réduire. Non, nous avons de bons rapports, mais aussi, il y a la diplomatie de couloir. Pourquoi au niveau de notre diplomatie, au niveau des ministères des Affaires étrangères, on ne peut pas entreprendre les démarches de telle sorte que, même si expulsion il y a, parce que même il y a ceux qui sont expulsés, très chers confrères, on vous trouve en vie, on vous ravit votre passeport, on ravit tous les documents, et dès qu'on vous a ravi, vous êtes dans un pays étranger, vous avez déjà été dans un pays étranger. Dès qu'on a mis la main sur vos documents, mais de toute façon, vous devenez irrégulier.
Et donc, il y a même des Congolais en situation régulière.
Il y a des Congolais en situation irrégulière. Ça, notre rédaction en a fait écho une fois. Il y a des Congolais en condition régulière. On les trouve en ville, à Luanda, ou n'importe où. On radie leurs documents et on les met dans des véhicules, on les pose directement vers le frontière. Hein, c'est un peu à ce niveau-là que ça se choque un peu très cher, confrère.
Jean Dombassi, vous êtes à Mwanda, au Bas-Congo. Certainement qu'il y a des Congolais expulsés de l'Angola qui passent par la cité de Mwanda. Et comment se présente la situation de ces Congolais là-bas à Mwanda?
Oui, à Mwanda, le refoulement des Congolais de l'Angola, ce n'est plus une actualité. Nous vivons ça chaque jour. Nous vivons ça chaque jour ici. Ils sortent toujours en surnombre là. Leur déclaration, c'est toujours on m'a pris ceci, on m'a pris cela, on m'a confisqué ceci. Moi, je suis en ordre. C'est vraiment la même chanson qui revient. Mais dans tout ça, c'est quoi, mes chers amis? Nous voulons que le gouvernement congolais s'assume et résoudre les vécus quotidiens de la population, les sociales. Les sociales doivent changer parce que, à tout moment, lorsque nous sommes en face des Angolais, en face ici, à Mwanda, ici, que ce soit dans l'enclave angolaise de Kabinda, que ce soit du côté de Soy, les Angolais nous disent, si votre pays, la République démocratique du Congo, est désordonné, ne prenez pas votre désordre au Congo et amenez ça en Angola. C'est ce qu'ils nous disent. Je vous donne un exemple. J'ai accompagné Papa Wemba en 2008 dans l'enclave angolaise de Kabinda pour une production musicale. C'était un concert public dans un endroit qu'on appelle Fera. Fera, c'est en langue portugaise, foire en français. Papa Wemba et son groupe s'est produit là-bas en plein air. Mais Papa Wemba n'était pas en mesure de commencer et terminer une chanson. Dès que Papa Wemba commence une chanson, et le reste, c'est le public qui veut récupérer la chanson jusqu'à la fin. Papa Wemba s'est dit finalement, nous sommes où? Nous sommes à Massina, nous sommes à Kimbanseke, ou bien nous sommes dans la commune de Bumbu. Donc c'est pour vous dire que les Congolais sont en surnombre du côté de l'Angola. Et ça fait mal du côté de l'Angola. L'Angola n'en veut pas. Il faut que les Congolais restent chez eux. C'est ça la réalité. Lorsqu'on vous appréhende, en ordre ou pas, on vous ramène au Congo. C'est ça le problème. Nous avons envahi un pays d'autrui. Les Angolais n'en veulent pas. C'est ça la réalité.
Jean Dombassi, donc il faut qu'en amont, le gouvernement fournisse des efforts ici afin que les Congolais ne soient pas tentés d'aller ailleurs.
Vous savez, mon cher, la fois passée, lors du refoulement massif, Mwanda était envahi par des refoulés. Le territoire de Mwanda a enregistré tous ces gens-là. On devrait les faire embarquer gratuitement pour rentrer dans leur milieu d'origine. Les Congolais ont refusé. Ils ont traînaillé ici. Ils nous ont promis, nous allons rentrer de gré ou de force en Angola. Parce que c'est là où il y a la vie. Au Congo, il n'y a rien.
Mais
un mois après, partout où on passait, ces refoulés étaient inaperçus.
ils sont rentrés dans un pays d'autrui, hein, sans papier, et qui doit accepter ça. Vous pensez que l'Angola doit accepter ça? L'Angola ne peut pas accepter ça. Notre pays doit améliorer la situation sociale pour stopper le départ massif des Congolais de l'autre côté de l'Angola.
Ambroise Mamba, la République démocratique du Congo doit améliorer les conditions de vie de sa population pour que celle-ci ne soit pas tentée d'aller ailleurs.
Effectivement, c'est très important parce que notre confrère Jean Domba, s'il a dit au téléphone, lorsqu'on expulse ces Congolais en Angola, on dit vous venez d'un pays désordonné, n'amenez pas les désordres du Congo en Angola. Et ça doit plus choquer ceux qui gouvernent, ça doit plus choquer le gouvernement. Puisque ça donne quelle image du pays à l'extérieur du pays? Ça donne quelle image du pays à travers tous nos pays voisins? Par exemple, nous devons nous amender sur ce point-là. Et le gouvernement doit travailler dans ce sens pour améliorer les sociales du peuple congolais, notamment pour que les Congolais ne soient pas tentés d'aller chercher la vie ailleurs. Et dans ce sens-là, on peut quand même restaurer cette image qui se perd de plus en plus, qui est de plus en plus dévaluée dans ce sens.
Joël Cadet, c'est devant ce genre de situation que la société civile sort de son mythisme et fait des propositions politiques. Et curieusement, ni en RDC ni en Angola, les forces vives ne réagissent pas, elles restent passives. Comment vous expliquez cela?
La passivité, très cher confrère, est expliquée par rapport à ce à quoi chacun tend. Nous avons un pays où chacun réfléchit en fonction de son ventre, de ses enfants, et on ne considère pas l'intérêt général. Si on pouvait tenir compte de l'intérêt général, ce que je fais, parce que nous devions nous considérer les uns comme serviteurs des autres. Si, au niveau de nos journalistes, nous nous disons nous sommes serviteurs de ce peuple, nous devions nous battre pour nourrir ce peuple de l'information et la bonne. Si au niveau des gouvernements, ils doivent aussi se battre pour servir, n'est-ce pas, le peuple, si chacun à son niveau doit éviter de considérer ses intérêts égoïstes personnels, je crois que les choses peuvent s'arranger. Mais lorsque, par exemple, quelqu'un arrive, vous avez vu, par exemple, au Parlement, donc quelqu'un arrive à ce niveau-là, il considère que non, écoutez, moi, quand je suis député, on m'a appelé pour être ministre, lorsque mes fonctions de ministre sont terminées, je dois rentrer au Parlement. Donc vous voyez à quel niveau l'égoïsme a pris. C'est-à-dire qu'il ne pense pas à ses suppléants qui ont battu campagne ensemble avec lui. Vous comprenez? C'est un seul cas que je prie pour vous expliquer. Nous avons atteint, nous devions nous réconscientiser, climater, pour que chacun, au niveau où il se trouve, qu'il se considère comme serviteur des autres. Quand on ne puisse pas voir seulement l'environnement immédiat, mais qu'on réfléchisse, les actes que je pose en tant que gouverneur, en tant que député, en tant que sénateur, en tant que journaliste, en tant que vendeur au marché, en tant que marchand, en tant qu'opérateur économique, ces actes ici, aucun impact sur les vêtements quotidiens de mes confrères. Le jour où nous pourrions arriver au niveau de considérer beaucoup plus l'intérêt général, je crois qu'on pourra résoudre les choses. Même au niveau des sociétés civiles, mais écoutez, au niveau des sociétés civiles, ce sont les ONG des droits de l'homme, ce sont elles qui ont lancé le cri d'alarme pour qu'aujourd'hui les Nations Unies s'intéressent à la situation de ces refoulés de l'Angola. Et elles ont fait leur travail, elles ont fait le leur. Mais maintenant, il appartient au pouvoir public de faire aussi le leur.
Jean Dobassi, aussi longtemps qu'il y aura des Congolais en situation irrégulière en Angola, certainement que cette situation d'expulsion sera vécue tous les jours. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les expulsions se fassent dans le respect des droits de l'homme?
Bon, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Pour le cas de la cité côtière de Moanda ici, nous déplorons que jusque-là, le gouvernement n'a pas encore ouvert un consul dans l'enclave angolaise de Cabinda. Les Congolais qui sont là sont exposés, sont dépourvus d'un interlocuteur valable. Cabinda est très vaste, hein. Alors, lorsque toute une communauté congolaise là-bas n'a pas un consul, c'est vraiment dramatique. Ils doivent défendre leur cas. Donc, ils sont vraiment exposés. Et deuxièmement, au niveau de l'Angola, c'est leur pays, ils peuvent mieux refouler les Congolais, mais ce que nous demandons, c'est la dignité humaine, quoi. C'est la dignité humaine. Mais qu'est-ce que nous constatons? Vous entrez par Cabinda, par la frontière de Yema. Les jours où vous êtes appréhendé en situation irrégulière dans l'enclave angolaise de Cabinda, au lieu de vous faire sortir à partir de Yema, On vous prend là-bas, on vous amène dans les Kassai là-bas. On va vous expulser à partir du Kassai. Quelle brimade! Quelle brimade! On arrête les gens dans les Kassai au lieu qu'on les sorte de là. Et ils sont appréhendés dans les Kassai, on les amène à Luanda. Et ils sont expulsés à partir de Tchela ici à côté de nous. Quelle brimade! Vous sortez de Tchela en provenance là-bas, de l'Angola vers les Kassai. Vous vous retrouvez à Tchela sans famille, sans argent, et vous devez
trouver.
Quelle brimade! Les Angolais doivent cesser cette façon de voir les choses et respecter la dignité humaine.
Ambroise Mamba, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les expulsions se fassent dans le respect des droits humains?
C'est un travail d'abord qui doit être abattu par le gouvernement angolais, qui doit quand même rappeler les sommes à l'uniforme, à l'ordre. Mais pour que ça arrive, les autorités congolaises doivent se faire respecter au niveau de l'Angola. Il faut que l'Angola comprenne que non, il faut que l'Angola respecte la RDC. À ce moment-là, il y a possibilité, par rapport à ce respect, qu'on rappelle quand même les délits à l'ordre. Peut-être parce qu'il le faut, parce que sur le plan des rapports, on semble être faible vis-à-vis de l'Angola. Voilà pourquoi ils le font. Ils disent, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais les autorités congolaises doivent d'abord se faire respecter et les autorités angolaises punir, effectivement, s'ils veulent donner quand même du crédit à son gouvernement. L'Angola doit punir les militaires qui ont commis ces actes pourvu que ça finisse une fois pour toutes. Même s'ils n'ont pas besoin des Congolais en Angola, mais ça doit finir. On doit expulser de manière humaine, pas de manière inhumaine. Et comme si les Congolais sont des sous-hommes. Non, on a un pays qui est immensément riche. On nous doit du respect sur ce point-là.
Merci. Nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Certains acteurs politiques de la province de l'Équateur contestent les contrats signés entre la Société des droits congolais Equatorial Energy and Water et la firme finlandaise Prinitas Financing sur la construction de cette centrale électrique dans cette province. En contrepartie, cette firme finlandaise va exploiter les richesses de la province pendant 75 ans. Plus de détails avec Kelly Nkoupé.
Selon certains acteurs politiques de la province de l'Équateur, un groupe d'investisseurs finlandais aurait signé en date du 11 juin 2010 à Stockholm en Suède un contrat avec les autorités congolaises pour la fourniture de centrales électriques dans la province de l'Équateur. Cet accord aurait été signé entre d'une part la société de droit congolais Equatorial Energy and Water et de l'autre part Prinitas Financing, une firme finlandaise. Selon le protocole d'accord, la firme finlandaise devrait construire dans la province de l'Équateur cette centrale électrique de 10 MW. Et en contrepartie, ce contrat autorise cette firme d'exploiter les ressources naturelles en République démocratique du Congo, plus précisément dans la province de l'Équateur, pour une durée de 75 ans. Certaines clauses de ce contrat stipulent, je cite, « Il est assujetti aux droits de fond de l'Angleterre et Pays d'Égal et que le siège ou le lieu juridique de l'arbitrage sera Londres en Royaume-Uni, tandis que la langue qui sera utilisée dans le débat de l'arbitrage sera l'anglais. » Fin de citation. Une bonne partie de la classe politique de la province de l'Équateur conteste ce contrat et estime qu'il est inconstitutionnel et déséquilibré. Certains observateurs, quant à eux, pensent que si ce contrat est mis en application, la forêt équatoriale ne disparaît plus dans 75 ans.
Pour sa part, le gouvernement provincial de l'Équateur affirme qu'il n'existe aucun contrat signé dans ce sens. Il existe plutôt un protocole d'accord signé en date de 10 juin 2010 en Mbandaka, lequel ne renferme que les intentions des parties. Joël Kadé Ndanga, les hommes politiques de l'Équateur dénoncent un contrat qui n'est pas reconnu par le gouvernement provincial.
Bon, je ne vois même pas si j'ai une réponse parce que je l'ai déjà donnée. L'homme congolais, politique soit-il, a une vision de l'immédiat d'aujourd'hui. Le futur, on n'en tient pas compte. Or, si nous pouvions tout ce que nous faisons, nous tenons compte du futur, le présent est amélioré sans problème. Si aujourd'hui nous pouvons investir pour notre futur, je crois qu'aujourd'hui ça peut aller. Mais quand des gens vous confectionnent un contrat, lequel doit laisser à une firme internationale étrangère, n'est-ce pas, d'exploiter votre sol, votre sous-sol pendant 75 ans. Parce que supposez Guy Maté, moi et vous, moi j'ai près de 40 ans aujourd'hui. Donc, plus 75 ans à mon âge, je ne pense pas que j'existerai. C'est-à-dire, les gens pensent à ce qu'eux doivent avoir pendant qu'ils sont en vie, mais ils ne pensent pas à leurs enfants, à leur progéniture, à leurs petits-fils et petites-filles. C'est ce que j'appelle l'égoïsme, et un égoïsme qui n'a même pas de nom, qui doit être pratiquement diabolique ou satanique. Comment quelqu'un ne peut pas penser à son enfant? Comment quelqu'un ne peut pas penser à ses petits-enfants? Et c'est là où on vous dit qu'on a
pour qu'on a signé ce contrat. Qu'est-ce qui vous dit que la centrale qui sera érigée va servir toutes les générations qui vont venir? Et cette centrale pourra tomber en panne. Ces gens-là ne sont pas liés, mais par rapport à ce que vous leur avez promis, c'est la même chose. Avec un contrat que nous avons décrit il n'y a pas longtemps, celui de cet essai, qui est cet essai à l'office d'Alex, l'office de l'actuel DGDA, mais c'est un contrat, on vous dit, l'arbitrage est en langue française, et puis à Paris. Donc rien ne peut se décider chez nous. C'est comme si chez nous, ceux qui vont comme experts dans les négociations pour la signature des contrats, qui après, on doit les pousser à la révisitation, c'est comme s'ils ne maîtrisent rien. C'est comme si on ne leur amène que des histoires pour signer une fille. Et après, il y a des révisitations. Non, nous devrions bâtir notre vie, pas en fonction seulement d'aujourd'hui, mais aussi en fonction de l'avenir, qu'on ne puisse pas faire porter à notre, aux futures générations de lourds fardeaux qui ne seront pas portés à cause de nous aujourd'hui, à cause de notre inconscience aujourd'hui.
Ambroise Mamba, selon le gouvernement provincial de l'Équateur, il n'y a pas de contrat signé dans ce sens-là, il n'y a qu'un protocole d'accord qui renferme, ce protocole d'accord renferme les intentions des partis. Comment vous réagissez par rapport à l'explication donnée par le gouvernement
provincial? Je voudrais d'abord dire que j'ai entre mes mains un document intitulé « contrat ». Un autre protocole d'accord. J'ai un document intitulé contrat relatif à l'engagement à financer l'acquisition des 7 centrales électriques dans la province de l'Équateur. C'est signé pour le gouvernement congolais par Jean-Claude Boyendé, gouverneur de la province de l'Équateur. Je ne sais pas s'il donne l'explication du protocole d'accord, peut-être pour voiler la face des politiques de la province qui ont dénoncé les contrats. Peut-être dans ce sens. Ils n'ont pas même des intentions, mais comment ces intentions sont articulées, comment ces intentions sont définies. Mais non, mais on n'a plus besoin de ce genre de contrats. Il y a eu beaucoup de contrats léonais dans ces pays, surtout dans le secteur minier, qui ont été révisités. Il faudra encore qu'on voie les résultats de cette révisitation. Ça, c'est encore un contrat léonais. On parle de cette centrale. Bien sûr, on a besoin de l'électricité parce que ça contribue au développement du pays. La province de l'Équateur en a énormément besoin. Mais ce n'est pas dans ce sens, parce que c'est tellement déséquilibré. Lorsque on signe un contrat pour cette centrale hydroélectrique, et en contrepartie, la firme doit exploiter les ressources minières, les ressources naturelles, pendant 75 ans, imaginez-vous, pendant 75 ans, et on parle de l'or, du diamant, du fer, de l'huile de palme, du bois. Donc, si ce contrat est mis en application, à mon avis, pendant 75 ans, la forêt équatorienne ne va plus exister. Donc c'est un contrat léonais. Moi, je pense que c'est la vente aux enchères des ressources naturelles d'un pays souverain. Et si on doit tirer les choses au clair, on ne doit pas quand même laisser les autorités agir dans ces sens. Tout simplement parce que, non, il va son profit, comme l'a dit Joël tout à l'heure, il va son profit en signant un contrat, il y aura de la commission, il va renflouer ses propres poches au détriment de la caisse d'État. Et ça, c'est inconcevable.
Jean Dombassi, ces contrats représenteraient environ 210 millions d'euros, mais une certaine opinion pense que l'on peut recourir au projet d'électrification de la province de l'Équateur par le barrage Dinga ou celui des Mobaïngongo, dont les coûts seraient estimés à environ 200 millions de dollars américains, au lieu de céder les ressources naturelles de toute la province. Et est-ce que vous partagez ce point de vue?
J'ai des larmes aux yeux. Parce que dans ce pays, il y a Inga 1, il y a Inga 2, il y a Inga 3, qui peut électrifier tous les Congos et pourquoi pas plusieurs pays limitrophes. On peut même aller jusqu'en Arabie Saoudite, là. Alors, si aujourd'hui, on doit brader les ressources naturelles de la province de l'Équateur à cause des mini-centrales, moi, je regrette. Moi, je pense que c'est au Parlement provincial de cette province de se saisir de cette question, d'interpeller le gouverneur. Contrat, c'est quoi? Protocole d'accord, c'est quoi? Des intentions simples, c'est quoi? Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est prendre la situation en main et pourquoi pas sanctionner les auteurs parce que le gouvernement congolais s'est poumonné la fois passée pour revisiter certains contrats miniers. Et aujourd'hui, on continue encore à brader nos ressources naturelles. Moi, je pense que c'est à l'Assemblée provinciale de cette province de s'assumer dans ce sens-là et d'interpeller le gouverneur.
Joël Kadé Ndanga, le projet Inga et Mobile Mbongo dont on parle ici existe depuis longtemps, mais n'ont jamais été réalisés. Et on en parle presque plus. Hein. En tout cas, la province a besoin de l'énergie pour notamment relancer son économie. Alors, face à cet impératif, ne faut-il pas prendre des initiatives pour vite que la province soit électrifiée?
Mais cela a constitué un des piliers du programme quinquennal du gouvernement en place. Nous pensions qu'au lieu de nous exposer devant des contrats léonais de ce genre, on pouvait imaginer comment réactiver Inga 1, Inga 2, Inga 3, qui existent ou bien Mbaye Mbongo, dont vous avez parlé. Et on pouvait mettre les moyens à cela, on pouvait demander. Bon, j'ai compris, même tous ceux qui viennent nous aider, tout ce que l'on appelle abusivement communauté internationale, ils aiment le Congo et n'aiment pas les Congolais. A dit d'ailleurs un député belge. Pourquoi? Parce que si on aimait les Congolais, on pouvait réfléchir, l'argent que l'on donne, au lieu qu'on puisse récupérer les minéraux bien qu'en relations internationales, c'est l'intérêt qui prime, mais on devrait, voulais-je dire, privilégier. Par contre, ce que nous avons, les acquis que nous avons, parce qu'il suffit que l'on puisse réactiver Inga 1, Inga 2, mais tout le Congo est électrifié. Et comment aujourd'hui le Congo nous électrifions? Congo-Brazza, notre voisin, la Zambie, l'Afrique du Sud, même voir l'Égypte, mais on est incapable de nous électrifier nous-mêmes. Et pour qu'on puisse électrifier la province de l'Équateur, on doit céder l'huile, on doit céder le sol. Et ce qu'on va découvrir d'ici 20 ans dans le sol, parce qu'il y a 30 ans, on ne connaissait pas les cassiterites à l'est de la RDC. Il y a 40 ans, on ne connaissait pas ça. Et même les ressources naturelles qu'on va découvrir au fur et à mesure, comme la technologie est en train d'évoluer, ce qu'on va découvrir appartiendra, il se passe pas à cette entreprise. C'est là où je rejoins Ambroise pour dire que le gouvernement doit prendre les choses en main. Et des gens comme ça, il faut les sanctionner. Nous avons les contrats devant nos yeux et on doit toujours diplomatiser, hein, parce que moi le mot diplomatiser, donc on doit toujours passer par l'euphémisme. C'est un drame, mais on veut les minimiser. C'est en tout cas grave.
Ambroise Mamba, vous allez réagir à ces points de vue d'un scientifique, c'est le professeur Dieudonné Mofibono, il est environnementaliste et éco-toxicologue. Il dit, pour pouvoir équilibrer un contrat, il faut en amont des études qui montrent quelles sont les ressources ciblées, elles représentent quelle quantité et pendant combien de temps d'exploration, et qu'est-ce que ça peut rapporter, et comment les bénéfices pourraient être redistribués dans la communauté. Et comment vous réagissez?
Effectivement, c'est ça que j'allais dire. Effectivement, je ne sais pas si c'est lui qui m'a rejoint ou c'est moi qui le rejoins. En fait, je vais dire que c'est moi qui le rejoins parce que je parle après lui. Je voudrais poser la question de savoir si le gouverneur Jean-Claude Bayende qui a signé ce contrat a pu évaluer ce que représente l'exploitation des ressources naturelles de la RDC pendant 75 ans. Est-ce que ça représente 210 millions d'euros? Ça ne représente pas 210 millions d'euros. Ça résonne au-delà de 210 millions d'euros. C'est ce que Joël a dit, par exemple, si on découvre d'autres ressources 20 ans après, on parle de 75 ans, peut-être lui-même ne sera plus vivant, je ne dis pas la mort, 75 ans c'est quand même beaucoup. C'est-à-dire qu'on a vendu aux enchères comme ça les ressources naturelles d'un pays souverain, et il signe la fausse signature, c'est un contrat comme ça, et puis il est calme, et puis le gouvernement ne va rien dire. Non, non, mais ici, on doit tirer les choses au clair. Il y a possibilité de pouvoir lancer Inga 2, Inga ainsi des suites pourvu que la province de l'Équateur ait de l'électricité. Ce n'est pas parce que la province a besoin de l'électricité qu'on va procéder par la signature d'un contrat léonais, peut-être parce qu'on va remplir ses propres comptes. Non, non, à ce moment-là, il fallait évaluer. Est-ce que Jean-Claude Bayende, c'est ce qui représente l'exploitation des ressources pendant 75 ans, c'est combien? C'est ce qu'on a dénoncé avec les contrats chinois. L'opposition avait dénoncé, non, ce n'était pas équilibré, c'était déséquilibré. Et puis le FMI est tombé dessus pour peut-être prendre la même chose. Il y a eu même un avenant qui a été obtenu pour permettre au gouvernement congolais de pouvoir entrer un nouveau programme avec les institutions de Bretton Woods. Et le gouvernement a fléchi, on a obtenu un avenant. Si on peut encore obtenir un avenant par rapport à ces contrats, moi je pense que ça va aller.
Merci, nous passons à notre dernier thème de ce soir. Retombée de la suspension de l'exploitation minière artisanale au nord et au sud de Kivu, une avion à la recherche des minerais éprouvés au sol depuis la semaine dernière à l'aéroport international international de Goma, un jet privé en provenance du Nigeria, est cloué au sol depuis le week-end dernier à l'aéroport international de Goma. Selon le gouverneur des provinces, Julien Paloukou, cet avion et son équipage sont arrivés à Goma avec une importante somme d'argent, $1 million pour une transaction des minerais et notamment de l'or. Les 4 membres de l'équipage ainsi que les 4 passagers de l'avion sont actuellement entendus par les services de sécurité de la place pour trafic des minerais, affirme les sources militaires sur place. Le point avec Gabriel Ouaméya.
Des sources concordantes à l'aéroport de Goma confirment que les jets s'étaient posés jeudi dernier sur la piste de l'aéroport de Goma. Ce n'est que le lendemain que la situation va tourner au vinaigre. Notamment lorsqu'un officier militaire proche du général Bosco Ntaganda arrivait précipitamment à l'aéroport avec les membres de l'équipage, s'est opposé à la fouille d'une valise retirée de l'avion. Les mêmes sources précisent que c'est au cadre de l'armée a eu l'ordre d'amener la valise au gouvernorat, ce qui n'a pas été fait. Par contre, en quittant l'aéroport, le cortège a changé subitement la direction au niveau de l'église Saint-Esprit et s'est dirigé, affirme les mêmes sources, vers le domicile du général Bosco Ntaganda. D'autres officiers militaires qui suivaient le cortège se sont vus empêchés par des militaires armés d'approcher la résidence du général Ntaganda. Dans la même soirée, le même officier est revenu avec neuf colis métalliques qu'il a fait monter dans l'avion. Pour l'instant, l'avion reste cloué au sol sur ordre des autorités provinciales et les enquêtes se poursuivent pour déterminer la provenance et la destination de l'avion. Quant aux neuf colis métalliques, ils sont placés à la banque, affirme le gouverneur de province Julien Paloukou. Goma, Gabriel Ouaméya, Radio Kapi.
Nous allons lire les hymnes de certains journaux. Nous avons le quotidien Le Potentiel qui dit au sujet de cette affaire « Mystère sur l'avion saisi à Goma ». Nous avons le quotidien Uhuru qui dit « Retombée de la suspension de l'exploitation minière artisanale, de l'or et $6 million saisis à Goma ». Et nous avons le quotidien La Référence Plus qui dit « Trafic illicite des minerais dans l'Est, la grande mafia minière démasquée à Goma ». Jean Ndoumbaxi, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio communautaire de Mwanda, une radio qui émet depuis la cité de Mwanda dans la province du Bas-Congo. Comment vous réagissez face à cette affaire?
Oui, comme vous venez de le dire là, c'est vraiment la grande mafia minière qui est démasquée. Et lorsque vraiment l'avion quitte le Nigeria, ça vient librement jusqu'à Goma. Je pense que nous ne pouvons que saluer le courage du gouverneur de cette province, ensemble avec toutes ces autorités-là, pour avoir saisi cet appareil. Et puis, nous pensons qu'il y aura des décisions pour que ce genre de situation ne puisse plus se répéter, parce que le chef de l'État et le gouvernement en place s'opposent à cette exploitation artisanale de nos minéraux, compte tenu de l'insécurité qui crée à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, s'il y a des gens qui se livrent à cette activité, moi je pense que il y a aussi des Congolais qui sont complices dans tout ça. Donc, c'est question de bien suivre ce dossier en profondeur pour identifier qui est qui derrière cette mafia. Et nous pensons qu'on puisse prendre plaisir à ce sujet pour que prochainement ce genre de choses n'arrivent plus.
Joël Kadé Ndanga, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du journal Impact News, un journal qui paraît ici à Kinshasa. Cette affaire ne traduit-elle pas les difficultés de l'application de la mesure des suspensions de l'exploitation des minerais dans cette partie du pays?
Non, Guy, vous savez, lorsque l'impunité devient un mode de vie, c'est à des choses comme ça que l'on peut aboutir. Lorsque les gens commettent les erreurs, ils commettent des infractions, ils commettent des crimes, mais on doit le laisser, on doit le pardonner, ils doivent respirer leur libre. Et c'est à des choses comme ça qu'on doit aboutir. Et c'est pour cela que l'homme d'armée ici, proche du général Ntaganda, recherché par la CPI, doit pratiquement barrer la route à tout le monde. Il doit se croire au-dessus de tout, parce qu'il sait qu'on ne lui paiera rien. Et je vous dis, comme le confrère Ndoumbaxi venait tantôt de le dire, et après ces gens seront relaxés, ils seront laissés, l'argent ne connaîtra plus peut-être la destination, et peut-être les minéraux qui ont déjà été pris vont partir, on a certaines considérations diplomatiques, ça va repartir, comme les sujets, les opérateurs qui ont été, qui sont verbalisés pour l'instant, ils sont des sujets des États-Unis d'Amérique ou de la France, donc, certaines forces au niveau politique vont intervenir, au niveau diplomatique vont intervenir, on va les relâcher, ils vont partir. Et cette affaire s'arrêtera ici où vous et moi sommes informés et ça va se passer comme ça. En tout cas, avec l'impunité qui est en train de perdurer jusqu'à maintenant dans notre pays. Je connais avec un député provincial du Katanga, Nazem Nazimbe, c'est un opérateur économique qui réfléchissait pratiquement de la même manière pour dire, lorsqu'on est en train de considérer toujours aujourd'hui, on ne tient pas compte qu'on doit punir, qu'on doit sévir, c'est là que ça nous amène à des choses comme ça. Hein? Parce qu'on ne vous a pas dit que c'est quelqu'un d'autre. Il y a des interférences. Ne pensez pas que l'Américain, le Français, les Nigérians ont quitté le Nigeria pour le Congo sans qu'il y ait eu des interférences des Congolais. Il y a des Congolais qui les ont appelés, il y a des Congolais qui les ont attendus, il y a des Congolais qui sont venus chercher de l'argent pour amener, il y a des Congolais qui ont désobéi à l'ordre donné par les gouverneurs. Ils ont changé de direction. Mais qu'est-ce qu'on va leur permettre? Parce que c'est l'impunité. Ils savent qu'ils sont au-dessus de la loi. On ne va rien leur faire et par conséquent, cette affaire s'arrêtera maintenant que vous et moi en sommes informés.
Ambroise Mamba, je rappelle que vous êtes journaliste à Congo Web Télévision, c'est une télévision qui émet depuis Kinshasa. Joël Cadet affirme que l'impunité pourrait expliquer cette situation. Et la réaction de la part du gouverneur de la province du Nord Kivu n'est-elle pas une action qui va dans le sens de combattre justement cette impunité?
Pas du tout. Pas du tout. L'impunité existe, nous sommes en plein dedans, dans l'impunité au pays. Ici, moi, je voudrais relever, lorsque on parle de retombée de l'interdiction de l'exploitation artisanale, non, à mon avis, ce ne sont pas des retombées. Si on pouvait parler en termes de retombées, on pouvait constater l'arrêt carrément du commerce illicite, des minéraux. Ici, il ne s'agit pas des retombées. C'est-à-dire que le chef de l'État a interdit et ça n'a pas suivi. Il n'y a pas eu d'effet par rapport à cette décision. Lorsque je suis contre ceux qui pensent qu'il s'agit des retombées, non, il n'y a pas des retombées. Parce que l'avion n'était pas sa première opération. Selon ce qu'on a rapporté, l'avion venait, atterrissait, opérait et repartait. Et cette fois-ci, il s'est passé quelque chose. Soit, selon ce qu'on a rapporté, un membre du réseau a vendu la mèche ou il n'y a pas eu respect des règles, des transactions tout simplement, et l'affaire a éclaté. Voilà pourquoi on a su qu'il y avait un avion dans ces sens. Bien, ici, moi, je pense que c'est la tolérance zéro qui est mise à rude preuve. Parce que on doit effectivement prouver que le chef de l'État qui a voulu punir ceux qui les mettent en difficulté par rapport à sa gestion, on doit aller jusqu'au bout, parce qu'on parle même des autorités politico-militaires qui sont impliquées, dont Bosco Ntaganda, on a refusé de les livrer à la CPI par le gouvernement parce que le gouvernement avait signé la paix avec lui en 2009. Mais cette fois-ci, il faut quand même qu'on punisse, ou bien si on ne punit pas, la justice congolaise va raisonner creux et désormais ça sera regrettable. Je voudrais encore ajouter une chose. L'Église catholique, la Cinco notamment, a ouvert dernièrement un séminaire pour proposer des pistes de solutions dans ce sens. Mais qu'est-ce qu'on en fait si l'Église catholique propose des solutions et que des hommes forts militairement sont là, ils défient pratiquement le chef de l'État? Je ne sais pas comment il va réagir par rapport à ça, mais il n'a pas droit à l'erreur cette fois-ci pour réagir et pour faire voir qu'effectivement il est chef de l'État. Il a restauré son autorité à travers le territoire national, et si l'autorité de l'État est restaurée à travers le territoire national, on doit punir, sanctionner les coupables.
Mais cette affaire ne serait pas sans impact sur l'État des minéraux.
Effectivement, ça ne serait pas sans partie. Les coupables sont identifiés, jugés et condamnés, punis sévèrement par rapport à la loi. Mais s'ils ne sont pas punis, s'ils ne sont pas condamnés, on va encore revenir sur un autre cas des commerces illicites des minéraux.
Merci, c'est la fin de cette émission. Sylvain Matsundu était à la technique, Kéline Kouté à la réalisation assistée de Samuel Kachak, sur la supervision de Pélé Kipéla Mondo, devant ses micros, Guy Maté. Merci et bonne suite des programmes sur Radio Okapi.
Thank you.